Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bien. Alors que celui qui a des oreilles entende. Hein? C'est une célèbre parole que vous connaissez dans l'Évangile. Voilà. Mais dans le sens, est-ce que vous m'avez compris? Hein? Do you understand me? Hein? C'est ça que le Seigneur Jésus disait. Il ne s'occupait pas de problèmes d'audition, hein, mais il s'occupait de savoir si on avait compris le sens de ces paroles. J'aimerais, pour ne pas allonger les choses, et peut-être que ce message, je pourrais le diviser en deux, peut-être, nous allons essayer de voir où le Seigneur nous conduit. Cet été, comme plusieurs, peut-être parmi vous, j'ai eu l'occasion de cultiver. Alors, c'était la première fois où j'ai planté des plants de tomates et de courgettes dans un petit terrain que j'ai près d'Anduze, hein, à Massane. Donc, j'ai essayé. Voilà. Et donc, j'étais très occupé avec ces choses, mais étant absent à Marseille, je ne pouvais revenir que tous les 10 jours. Et vous avez vu la température qu'il faisait cet été. Donc, les résultats n'ont pas été très bons. Mais Dieu a béni. J'en ai quand même mangé de mes tomates, mais pas de mes courgettes. Les fleurs de courgettes qui étaient magnifiques ont séché sous l'effet de la chaleur parce qu'il n'y avait pas assez d'arrosage. Hein? Alors, le thème de ma prédication sera sur une des paraboles de Matthieu 13. Hein? Matthieu 13. Matthieu 13, vous la connaissez très bien, c'est un chapitre dans lequel vous allez avoir 7 paraboles. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est une parabole? Les rues de Marseille, surtout sur les grands immeubles, en sont remplies. Il y a beaucoup de paraboles. Mais ces paraboles, qui sont des instruments techniques, vous permettent d'écouter à distance des messages, une langue que vous comprenez et que vous maîtrisez. Donc, les électriciens ou les spécialistes vous diront qu'il y a une concentration du flux, hein, d'informations et par les ondes qui sont captées par cette grande assiette blanche et retraduites sur votre téléviseur. Voilà, dans la langue de votre pays, dans la langue que vous maîtrisez. Le Seigneur Jésus a fait de même. Il a utilisé la parabole. La parabole pour concentrer le sens de ce qu'il disait. Ainsi, il nous faut être très attentifs toujours à ce que nous lisons et méditons. Et je lis donc le premier texte dans Matthieu 13, une parabole très connue. La parabole du semeur. J'y ai pensé avec mes semis de tomates. Et... ce même jour, ou en ce jour-là, Jésus sortit de la maison, vraisemblablement la sienne à Capernaum, ou du moins celle où il siégeait à Capernaum, et s'assit au bord du lac, au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Oui, parce qu'un semeur peut sortir pour différents motifs. Mais le semeur, là, est sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Nous allons commenter pourquoi. Les oiseaux vinrent, les passereaux, et mangèrent les graines qui étaient à leur disposition. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. J'ai eu le cas parmi mes tomates, surtout mes tomates cerises. presque pas d'eau, une terre pas bien préparée et pourtant une floraison de tomates cerises. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Pas faute d'eau, hein, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent, étouffèrent. Je ne sais pas si vous avez vu les buissons de ronces quand ils montent. C'est épouvantable parce que même un homme ne peut plus passer. Il faut y aller avec un instrument métallique, hein, une faux ou quelque chose de très coupant pour essayer de rentrer là-dedans. C'est terrible. Et en plus, ça vous déchire. Si vous n'avez pas de gants, les épines vous déchirent et ne vous laissent pas passer. Et je ne vous dis pas le sort de ce que vous avez planté en dessous. En poussant, la plante se déchire dans les épines. Et en plus, elle n'a pas de lumière. Enfin, c'est catastrophique. Mais le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie de la graine, hein, the seeds, une autre partie, another part of the seeds, tomba, fall down, dans la bonne terre. Hein, good ground, good soil. Hein. Elle donna du fruit, ben c'est normal, hein. Un grain pour 100. Alors, je vous rappelle que dans un épi, hein, il y a plusieurs grains. Hein. Voilà. Et il y a des épis qui donnent 100 grains pour celui que vous avez planté. Je dois dire que même dans mon plant de tomates, j'ai eu des centaines de tomates. Les petites, hein, sur les cerises. Hein. Bon, elles tombaient, bon, ou elles étaient mangées par les insectes. Mais pour un plant, voilà. Sinon, d'autres, c'est des kilos de tomates. Hein. Un autre 60 grains, un autre épi 30. Vous avez vu qu'il n'y a pas moins de 30. Hein. C'est la marge de l'artisan, les 30%. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, qu'il comprenne. Alors, vous avez la suite du récit. Et nous allons passer à l'explication du Messie. Il ne va pas expliquer à la foule. Il va expliquer que la véritable compréhension, le véritable sens est à disposition de ceux qui le recherchent, et non pas simplement de ceux qui sont là pour voir même le Messie, hein, ou le grand prophète qui a paru. Donc, il faut vouloir comprendre. Il faut demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Me dire, à moi. Vous avez vu qu'il y a du 100, il y a du 60 et il y a du 30. Donc, il y a trois au moins catégories, j'allais dire, de cœur, qui vont rendre à proportion de leur capacité et du choix de Dieu. Mais tout le monde ne rend pas le même fruit. Tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Et c'est normal, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché. Alors, un peu plus bas, au verset 18. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » On croyait qu'on avait toutes les significations. Mais ce petit cours d'agriculture, on se demande le rapport qu'il a avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle. Voilà. Lorsqu'un homme, un être humain, un homme ou une femme, verset 19, écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, vous voyez ? Le malin, le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et je vous rappelle de faire la comparaison avec la parabole elle-même. Nous sommes là dans les graines qui sont tombées sur la route, sur le chemin, où la terre est piétinée, dure, même mouillée, la graine ne peut pas prendre. Il s'agit d'un être humain qui a entendu, mais qui n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'il devait comprendre ? C'est ça, le mystère. Donc, comme il ne comprend pas, les soucis de la vie, ses occupations, font envoler ce qui a été semé dans son cœur. Comme des oiseaux qui viennent et qui mangent la graine. Cet homme, cette femme, sont ceux qui ont reçu la semence le long du chemin. Nous avons l'explication. Celui, par contre, qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui ou celle qui entend la parole, il la reçoit, donc commence à comprendre, mais il n'a pas tout compris. Aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Pourquoi ? À cause des pierres, à cause des endurcissements qui sont dans son cœur et dans sa vie. La pierre là parle de dureté. Hardness. Elle parle de dureté dans le cœur. Tout le cœur n'est pas pierre, heureusement. Mais dans le cœur, il y a des pierres. Il y a des endroits, des parties de notre vie qui sont endurcies. Nous le savons tous. Dans notre vie, il y a des choses où la parole de Dieu ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Heureusement, il y a une solution. Ce n'est pas éternel et définitif. Il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, une opposition à cette parole dans sa vie, ça peut venir de la famille, ça c'est déjà vu, Marie-Christine en a parlé au sujet de son premier mari, ça peut venir des enfants, ça peut venir des collègues de travail, ça peut venir du monde entier, des autorités politiques dans certains pays, de la police dans d'autres pays, de l'armée dans d'autres pays, qui viennent vous torturer alors que vous êtes un bon citoyen, simplement parce que vous avez reçu la parole de Jésus. C'est quand même dramatique. Quand on reçoit la parole du Christ, on devient meilleur. Et pour ça, on vous persécute. C'est catastrophique. Il y trouve une occasion de chute, évidemment. Celui, verset 22, qui a reçu la semence parmi les épines, les ronces et toutes sortes de buissons gênants. C'est celui ou celle qui entend la parole de Dieu, mais en qui les soucis du siècle et la séduction du matérialisme, des richesses, du confort étouffent cette parole et la rende infructueuse. Je me souviens d'un temps, vous savez, où les prédicateurs tournaient contre la télévision. Combien de fois a-t-on vu avec le petit écran l'absentéisme augmenter pendant les réunions ? Combien de fois avons-nous entendu « Mais il y a un match de l'OM, il y a la finale, je ne peux pas venir à la réunion de prière. » Ou « Je suis fatigué et j'ai regardé un beau film. » Voilà. C'était un temps où nous luttions contre le grand écran. Et bien maintenant, des écrans. La bataille a été perdue. Hein ? Bon, l'avantage, c'est qu'on peut se distraire même pendant les cultes. Écouter autre chose. Regardez, dans nombre de rassemblements, la jeunesse, pendant le culte, ils sont là. Internet, pendant le culte. Et vous êtes là, écoute un peu. Oui, mais là, je fais un jeu en ligne. Verset 23. Celui qui a reçu la, ou celle qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et la comprend. Ah, ça veut dire quoi? Et vous avez la suite. Il la comprend. He understands. Et qu'est-ce que c'est que comprendre? Il porte du fruit. He got fruit. After understanding. Il comprend. Vous avez vu que tout à l'heure, on a entendu, il la reçoit soit avec joie. Plusieurs l'ont reçu avec joie, mais ils n'ont pas bien compris que pour suivre le Seigneur Jésus, il faut porter du fruit. Il ne s'agit pas d'adhérer, d'une adhésion. Ah, j'adhère au club, moi j'adhère au christianisme, je fais ce que je peux. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu portes du fruit? Je me le dis à moi-même. Sinon, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris les implications de l'Évangile. L'Évangile qui nous appelle à suivre le Seigneur Jésus, c'est d'écouter la parole du Christ. Pas forcément ce qui est agréable, ce qui est aussi désagréable de sa part quand il dénonce le péché, quand il dénonce les soucis du siècle et l'attrait du confort et du matérialisme, l'attrait des richesses. Ce n'est pas agréable de l'entendre, surtout si, comme le prophète Nathan à David, il nous est dit, cet homme, c'est toi. Après son péché avec Bathsheba. C'est celui qui entend, c'est celui qui comprend, qui se met en marche et qui porte du fruit. Une explication maintenant sur ces terrains. Vous avez vu qu'on nous parle de parabole du royaume. Et c'est ce qui m'a fait comprendre, comme prédicateur, où nous avions l'habitude, c'était une déformation, de se concentrer uniquement sur la bonne partie du terrain, la quatrième, en disant, ça c'est nous, les croyants, donc pour le reste, c'est pour les incroyants. Or, il se trouve que cette parabole s'adresse à tout le peuple, étant une parabole du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Donc, nous devons réfléchir sur ce qui, dans notre vie, correspondrait aux quatre parties du champ. Alors, pourquoi, monsieur? Parce qu'un champ, c'est délimité. J'ai dû mettre une petite clôture. Bon, je vous dis, ce n'était pas pour chasser mes voisins, ils sont honnêtes. C'était pour me protéger des rongeurs, des lapins et des oiseaux. Les oiseaux, c'est un peu plus difficile, il aurait fallu que je ferme. Mais j'ai mis des boîtes de conserve sur mes piquets. Quand le soleil vient, ça vous fait des lumières, hein? Et en principe, ça fait peur aux oiseaux. Voilà. En principe, hein? Et j'ai dû enclore mon terrain. Mon terrain a des limites. Et je l'ai compris encore plus comme mon voisin, qui n'avait jamais nettoyé sa parcelle, quand il a vu que je suis arrivé, il est immédiatement nettoyer sa parcelle et replanter les piquets qui déterminaient, délimitaient sa parcelle. Il avait peur que j'empiète un peu, parce que c'est un peu la mode en campagne. Hein. Quand le proprio ne vient jamais, on décale d'un mètre, deux mètres sur le voisin. Donc, un terrain, c'est enclos. C'est délimité. You have borders on your ground. Hein? Vous avez une limite. Et alors, pour préparer votre terrain, non seulement soit vous manifestez l'enclosure en mettant des piquets, hein, soit vous mettez rien parce que tout le monde vous connaît. Alors là, l'avantage, c'est que sur un côté, il y a le bord de la route. C'était un avantage. Et un inconvénient. Pourquoi? Parce que nous devons nous remettre à l'époque. Nous devons penser comment faisait-on les semis, les semailles, excusez-moi, à l'époque. Les semis, c'est facile, on est là, on creuse un trou, on met son plant de tomate ou d'autres choses. Mais les semailles, c'est un semeur qui sortit pour semer. C'est-à-dire qu'il vient, il a un grand sac, a big bag with grains, with seeds, sur son côté. S'il est droitier ou s'il est gaucher, il les met du côté où il veut travailler. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur la partie du terrain qui est meuble, qui est préparé. Donc il se met au bord, là vous avez la route, et il commence. Il avance droit. En principe, il y a des sillons qui ont déjà été faits. Et il fait un grand geste circulaire, comme ça. Comme on le voit encore dans des pays du tiers-monde, où la personne, après sa charrue en bois, ben, il le fait à la main. Il n'a pas une repiqueuse, il n'a pas tous les matériaux que nous avons maintenant dans des magnifiques tracteurs. Hein. Il fait un geste circulaire. Quand il arrive au bout, il revient. Il repart. En s'écartant, évidemment, de 1,50 m, 2 m, pour ne pas semer toujours au même endroit. Mais quand il a semé la première fois, avec son geste circulaire, il en a mis sur la route, sur le chemin qui passait à côté, puisqu'il a fait un grand geste comme ça. Mais il en a mis aussi sur le petit talus, là, où il a jeté les pierres, qu'il a enlevées du milieu du terrain. On ne va généralement pas à la déchetterie en campagne pour jeter les pierres ou les souches ou les branches hein, qu'on a trouvées au milieu du terrain. On les met sur le côté. On brûle le bois mort, évidemment, ou on le récupère. Mais les pierres, il y a beaucoup de pierres dans les champs. Hop, on les met sur le côté. Donc, il y a les graines qui sont tombées sur le chemin, les graines qui sont tombées dans le talus, in a border, hein, où il y avait des pierres, rocks, stony place, hein, in a border, c'est tombé là aussi. Heureusement, tout n'est pas tombé là, parce qu'on se décale et allez, retour, come back. Hein. Hop, 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 hop. Donc, les parties mauvaises, appartiennent aussi au terrain. C'est un seul et même terrain qui est préparé. Donc, nous avons en nous les quatre terrains, the four grounds in our heart. Nous avons les quatre en nous. Et c'est pour cela qu'il est très important de mesurer son geste aussi. Mais je fais confiance au semeur. Je veux simplement, chers frères et sœurs, attirer votre attention sur le fait que dans notre vie, il y a non seulement de la bonne terre, et puis il y a des parties qui peuvent être même au milieu du terrain. Parce que je n'ai pas enlevé la souche, parce que j'ai fait un tas de pierres en plein milieu, surtout si je n'ai pas de tracteur. Je ne me casse pas la tête de recourir toujours au bord du chemin pour jeter mon sac de pierre. J'en fais même un au milieu, ça ne va pas gêner le tracteur, et quand je vais semer, ça va tomber dans le tas de pierres, ce n'est pas grave. Hein? Donc, chers frères et sœurs, dans nos vies, il peut y avoir des épines qui étouffent la parole de Dieu. Ce sont nos centres d'intérêt qui, des fois, devancent le centre d'intérêt qu'est la parole de Dieu, son service et le développement de son royaume. Il peut y avoir aussi des endurcissements. Donc, il nous faut travailler à ces choses. Vous avez vu que dans certaines parties néfastes, le manque de persévérance, l'incompréhension et l'oubli ont empêché la semence de se développer. Si vous avez des tas de pierres, si nous avons des tas de pierres en plein milieu du terrain, partout sur le terrain, des petites pyramides, des petits monticules, à ces endroits-là, il n'y aura pas de semence. Et vous tombez à 30 au lieu de 100. Mais ce n'était pas l'objectif. Donc, sur le premier chemin, nous avons vu, ils entendent, mais bon, ils ne réagissent pas, ils ne comprennent pas. On nous parle d'insouciance et d'incompréhension. Pour suivre le Christ, il faut s'engager à porter du fruit. Et puis, il nous faudrait voir quelle sorte de fruit il faut porter. Il y en a deux catégories. Il y a un fruit intérieur et il y a un fruit qui se manifeste à l'extérieur. Dans le terrain des pierres, nous en avons déjà parlé, l'enracinement n'est pas profond et il y a des endurcissements. Dans le terrain des ronces, les soucis du siècle, gagner son pain, travailler, subvenir à ses besoins, qui ne sont pas une mauvaise chose, hein. C'est un commandement de Dieu, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Épître de Paul, sauf dans les circonstances difficiles, évidemment, la maladie ou d'autres choses. Et puis, évidemment, on termine par la bonne terre. Donc, maintenant, je voudrais examiner avec vous les fruits. Alors, il y a une première partie, je ne voudrais pas être trop long, les fruits intérieurs de cette transformation. Vous savez que le terrain a été transformé. On a enlevé les pierres, on a enlevé les épines, on a enlevé les obstacles au développement de la parole de Dieu. Les souches, les arbrisseaux et les plantes envahissantes, les mauvaises herbes. On les a enlevées. C'est un terrain qui est prêt et qui est là pour être travaillé par le Seigneur, afin de produire selon ce que la grâce accorde à chacun, bien entendu. Et nous avons dans l'Épître aux Galates la nature du fruit. Dans Galates 5, 22, vous avez un fruit. Je ne sais pas si vous avez bien regardé. Mais un fruit qui se manifeste de 9 façons différentes. 3 fois 3. Ce n'est jamais du hasard dans l'Écriture. Hein ? Alors, je prends avec vous cet épître de Paul aux Galates, c'est-à-dire aux Gaulois. On parlait déjà aux Français et aux Marseillais dans l'Écriture, vous voyez. Alors, Galates, voilà, chapitre 5. Or, les œuvres de la chair, verset 19, sont manifestes. Tout le monde les connaît. L'adultère, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, le désir de nuire. C'est terrible. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les goinfres, et les choses semblables. Ça, c'est on sait. Ça, c'est les épines. C'est les mauvaises herbes. On en a la description, et vous savez que ça existe, et c'était même en nous, avant de connaître Jésus-Christ. Mais des fois, il reste des racines, comme le chien dent. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit, vous avez vu, un fruit. Le fruit de l'Esprit, le travail du Saint-Esprit en nous, ce travail de transformation pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. C'est le projet de Dieu. C'est ne pas de faire de nous de nouveaux prophètes, de nouveaux saints, de nouveaux apôtres. Être à la ressemblance de Jésus-Christ pour porter un message aussi véridique que le sien, qui joignait la parole aux actes. Mais pour cela, il faut être transformé intérieur. Il faut avoir une énergie, une puissance qui ne peut venir que du Seigneur. Alors, le fruit vous est décrit sous 9 facettes. Incroyable, hein ? Il n'y en a qu'un. C'est le fruit intérieur. Le fruit intérieur n'a pas besoin d'être multiple. On n'a pas besoin intérieurement d'avoir un potager très riche. On a besoin de fructification. On a besoin de force. On a besoin de puissance. En fait, on a besoin de goût. Et là, on ne vous parle pas du fruit dans sa particularité, tomate, courgette, pomme de terre. On vous parle de l'énergie, du goût de ce fruit, de l'arôme de ce fruit. Et je dois dire que les quelques tomates, les quelques cœurs de bœuf que j'ai eus là, et même mes tomates cerises, avaient un goût que celles du commerce n'ont pas. C'est l'amour. L'expression du travail de l'Esprit-Saint en nous se manifeste par l'amour. Je ne parle pas encore des gestes et des actes d'amour. Je vous parle simplement de l'amour. Or, nous l'avons entendu dans la lecture de l'Épître de Jean. Dieu, nous ne l'avons pas entendu ce matin, mais dans le prologue, le morceau de prologue, on nous a parlé de la parole de vie et de la lumière qui vient avec. Et puis plus bas, si vous lisez, il y a l'amour. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Oui, parce que des fois, on peut être déchaîné dans l'amour et déranger tout le monde. Être en paix. La patience aussi, la bonté, la bienveillance. Souvent, je suis un peu dans le travail, je suis un peu interloqué et des fois un peu attristé. Parce que maintenant, la bienveillance, c'est à la mode. Donc, les gens, il vous salue en vous disant « Je vous souhaite une heureuse journée. » Avant, on disait « Bonjour » et « Au revoir ». Maintenant, on dit « Qu'elle vous soit profitable », que... des discours. Mais je me dis « Qui ne sont tenus par quoi ?» Quelle est l'énergie de cette volonté de bienveillance de mes collègues ? Ça part d'un bon sentiment. Mais est-ce que c'est parce qu'ils m'ont souhaité de passer... Alors, j'ai la collègue d'en face qui dit « Heureuse journée !» Si Dieu le veut, béni soit le Seigneur, heureuse... C'est de la bienveillance. Mais il faut une bienveillance qui est comme sève, l'amour du Christ et le travail du Saint-Esprit. Et là, je vous ai révélé le secret en n'ayant pas fini de vous décrire les 9 facettes du Saint-Esprit. En fait, il s'agit là des caractéristiques de la sève, du sang qui va nous irriguer, qui sont les vertus du Seigneur Jésus, qui sont les caractères du Seigneur Jésus, si vous avez bien remarqué. Caractère de Jésus. C'est une sève qui, nous le verrons une autre fois, si Dieu veut, merci, nous permettront d'exprimer pratiquement, matériellement, envers nos concitoyens, envers d'abord nos frères et sœurs en la foi, d'exprimer cet amour, cette bienveillance, cette patience. Il en faut beaucoup dans l'Église, de la patience. Cette bonté, cette fidélité, cette douceur, cette tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi dans ses sentiments, dans son caractère, dans l'expression de sa personnalité, la loi n'est pas contre ces choses. Merci, frère, de me le rappeler. Non, il rappelle aux Gaulois qui disaient que si on est circoncis et qu'on suit la loi de Moïse dans l'Épître aux Galates, cela suffit. Les apparences de la religion. Mais la loi ne s'insurge pas contre l'amour. Les commandements de Dieu ne sont pas contre la bienveillance, contre l'amour, contre la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. C'est pas, la loi n'est pas contre cela. Mais, vous voyez, si on ne s'occupe que de religion, si on ne s'occupe que des piquets et de la clôture, eh bien, il n'y aura pas de fruit. La loi n'est pas contre les piquets et les clôtures sur les potagers. La loi du jardinage, elle n'en est pas contre. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous avons quelques clés, heureusement, dans l'Écriture pour pouvoir, justement, laisser abonder en nous et travailler à ce que cette sève, ce sang du Christ qui est vie, vive en nous. Quand nous partageons le pain et le vin, que disons-nous sur la coupe ? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, a dit le Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Mais l'apôtre Paul dira, quand nous communions à la coupe, tous ensemble, nous communions au sang de Christ. C'est-à-dire que nous participons, nous affirmons tous ensemble que nous participons, nous bénéficions de son sacrifice et de son sang versé à la croix, mais que nous vivons de sa vie. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce n'est-elle pas la communion au sang de Christ, au pardon des péchés, certes, mais à la vie de Jésus, car il n'est pas resté mort. Alors, des clés. 1 Jean 12, 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il restera seul. Qu'est-ce que peut nous apporter cette description du processus de la désemaille du grain? Il y a un processus de décomposition et de mort à soi-même. C'est ça le problème. À ses rêves, à ses fantasmes. Et cela permettra la fructification. Apocalypse 12, 11. Il y a un principe de mort, un principe d'abandon, un principe, frères et sœurs, de renoncement. Même si ce n'est pas mauvais, ce dont vous rêvez. Mais peut-être est-ce un obstacle, une pierre sur le chemin de Dieu dans votre vie. C'est pas mauvais, c'est légitime. Mais ça peut être un obstacle. Apocalypse 12, 11. Eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, qui procure pardon et vie spirituelle, et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ce n'est pas fini. Leur foi dans le sang de Christ, parole de témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On n'a pas peur du prix à payer. pour suivre Christ. Si quelqu'un ne prend sa croix et ne me suit pas, ben, il ne se produira rien dans sa vie. C'était une deuxième clé. Mourir à soi-même, vaincre par la foi dans le sang de Christ et par la parole d'un témoignage qui n'est pas habité par la peur. Je me rappelle dans ma jeunesse, quand nous allions sur la Canebière avec l'église de la Bonne Nouvelle pour annoncer l'évangile. J'étais jeune, qu'est-ce que j'avais peur. Mais je n'avais pas peur de mourir, j'avais peur de parler en public. Vous voyez que ça a changé par la grâce de Dieu. J'avais peur. Peut-être on va nous rironner, et c'était arrivé. Peut-être on va s'opposer, et c'est arrivé, mais que verbalement, heureusement. Et nous revenions, après cet après-midi de témoignage sur la Canebière, en plusieurs stations jusqu'au Vieux-Port, et nous revenions heureux, on distribuait des évangiles, on parlait de vive voix à la foule. On avait des entretiens particuliers, là, sur le terrain. Tout le monde en chantait des cantiques, comme ça les gens s'approchaient en disant « qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et on leur parlait de Jésus. Et on revenait gonflé. On avait vaincu la mort, la timidité et la sécheresse par la parole de notre témoignage. Les prédicateurs et les chrétiens qui avaient des entretiens aussi particuliers avec le public. « Monsieur, vous connaissez Jésus ?» Voilà. C'est une clé très importante, chers frères et sœurs. Jacques 1, 21. C'est pourquoi j'ai pris une version très moderne. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole implantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Ouais. Un éloignement du mal. Il n'y a rien à faire. Il faut s'éloigner du mal et recevoir avec docilité les instructions du Seigneur. Si le Seigneur, mon frère, ma sœur, te dit « abandonne ça », tu dois l'abandonner. Sinon, tu endurciras ton cœur. Même si tu y tiens beaucoup. Je m'occupe en ce moment d'une sœur qui a de grosses difficultés à abandonner une relation, j'allais dire, impure avec un monsieur qu'elle a rencontré dans sa solitude et ses épreuves, mais un monsieur qui pratique la magie. Et qui l'utilise sur elle, pour la garder. Elle a d'énormes difficultés, elle me dit, c'est tellement difficile, il me téléphone tous les jours. J'ai dit, tu ne réponds plus. C'est tellement difficile de renoncer à certaines choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Là, il n'est pas dans le chemin du Seigneur. Le renoncement. 1 Corinthiens 6, 11. Et quelques-uns d'entre vous, vous étiez tels. Vous étiez comme ça. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Vous avez été consacrés. Vous avez été rendus justes de tordus, mauvais et injustes comme on l'était. Vous avez été rendu juste, vous avez été justifié. Vous avez été rendu juste, innocent. Vous avez été innocenté de tous vos péchés. Quelle grâce! Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quelques clés que je pourrais vous donner. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas voulu vous assommer avec ça. Et je voudrais conclure, chers frères et sœurs, par un verset de Michée dans l'Ancien Testament Michée au chapitre 6 sur verset 8, qui résume toute la volonté de Dieu pour nous. On t'a fait connaître, ô homme ou femme, ce qui est bien. C'est la loi de Dieu, c'est sa parole. Et ce que le Seigneur demande de toi, c'est quoi ? C'est que tu pratiques ce qui est juste. Tu pratiques la justice, que tu aimes faire miséricorde, que tu aimes la compassion, que tu aimes ton prochain, et que tu marches humblement pour tout ce qui est incompréhensible dans les réactions de Dieu. C'était un vieux livre écrit par un frère anglais, « Les réactions de Dieu », qui ne sont pas toujours, pour nous humains, compréhensibles. Pourquoi Dieu ne fait-il pas ? Pourquoi Dieu ne délivre-t-il pas ? Pourquoi ne me guérit-il pas ? Pourquoi ? Que tu marches donc humblement avec ton Dieu pour que ces questions ne détruisent pas ta foi, pour que le comportement de Dieu qui est au-dessus de toute compréhension ne te trouble pas. Que votre esprit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez ? Jean 14, au verset 6. Voilà, on t'a fait connaître, mon frère, ma sœur, ce qui est bien. Et ce que le Seigneur demande de toi, exige de toi, pour que tu restes en sa sainte compagnie et dans sa famille, avec lui, et que tu sois sauvé pour l'éternité. C'est que tu pratiques ce qui est juste, que tu aimes ton prochain et que tu marches par la foi, sans comprendre. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de faire fertiliser en nous ces paroles que tu m'as adressées pour mes frères et sœurs et pour moi-même aussi qui suis un terrain souvent très empierré, Seigneur, et plein de ronces à cause de mes péchés, de ma nature humaine. Mais j'ai tellement confiance dans l'œuvre de ton esprit, dans ma vie et dans nos vies, dans la parole de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave. Et je te demande de nous accorder cette foi et cette confiance nécessaires dans la parole de Dieu. Et je te demande aussi, Seigneur, de nous accorder la douceur de nos cœurs, et non pas la résistance, Seigneur, de la douceur pour que nous puissions justement accueillir avec douceur cette parole du Seigneur Jésus, qui veut nous transformer, qui veut nous faire avancer sur le chemin de Jésus et de faire de chacun d'entre nous une image de Jésus-Christ auprès de nos concitoyens que nous devons appeler par la parole de notre témoignage à la repentance et au salut et à la foi en Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous de changer, de travailler à cette transformation intérieure par la sève de ton esprit et par le sang de Jésus qui veut agir en nous et faire des miracles, accomplir des choses puissantes au sujet desquelles nous disons « mais c'est impossible ». Mais je n'y arriverai jamais. C'est mon caractère. Je suis comme ça. On ne peut pas se refaire. Oui, Dieu peut te refaire, mon frère, ma sœur. Dieu peut te reconstruire. Le Seigneur peut tout changer dans ta vie. Nous n'atteindrons pas la perfection, nous le savons, dans ce monde. Mais nous voulons tellement te ressembler, Jésus. C'est notre espoir suprême. Aussi, nous te le demandons et nous te remercions parce que tu as écouté nos prières. Au nom de Jésus, nous te présentons cette requête. Amen.